semblait une évidence, mais ça va mieux en le rappelant que notre Dieu est créateur, et on va développer un petit peu tout ça. Alors pas entièrement, parce que c'est un thème qui est tellement vaste, on va faire un focus juste sur quelques aspects de notre Dieu créateur et comment on peut se positionner face à ça. On va commencer déjà dans Genèse 1:1. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, je pense qu'il n'aura pas échappé, même aux plus attentifs d'entre vous, que la Bible nous dit dès le départ que Dieu est créateur. Donc, ce n'est pas une révélation. On voit aussi, toujours dans Genèse chapitre 1, que Dieu crée la terre, les cieux, les animaux. Et à chaque fois, il dit « cela est bon ». Et puis quand il crée l'homme, il est écrit « cela est très bon ». Et voilà, il a considéré tout son ouvrage. Alors c'est peut-être une interprétation personnelle, mais pour ma part, je pense que la création de l'homme, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu. Alors je sais que je vous l'ai déjà faite celle-là, mais regarde ton voisin et dis « tu es le chef-d'œuvre de Dieu ». C'est toujours bon de se le rappeler parce que notre valeur, c'est vraiment parce que c'est Dieu qui a fait un ouvrage merveilleux. Donc, on va prendre le Deutéronome, au chapitre 32, verset 6, qui va encore nous rappeler ce côté créateur. N'est-il pas ton père, ton créateur ? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi ? C'est très important le fait qu'il soit non seulement notre créateur, mais notre père. Le monde n'a pas cette révélation du père. Tout au plus, certains, quand ils étudient les sciences, ils en arrivent à la conclusion que oui, il y a peut-être un créateur, mais cette filiation, cette relation personnelle avec Dieu comme étant notre père, ça c'est quelque chose que le monde a besoin de découvrir. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'on sait qu'on a une position très particulière, non seulement dans l'univers, mais dans le cœur de Dieu. On est au centre de sa création, enfin, autant que de notre point de vue en tout cas. On va se poser la question déjà des motivations de notre Créateur. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? Quel est son rôle aussi dans la création ? Parce que c'est bien d'avoir un Dieu créateur, mais comment est-ce qu'il agit dans sa création ? Et puis notre rôle à nous, comment on va se positionner une fois qu'on sait que on a un Père, on a un Créateur qui continue d'agir. Eh bien, nous, en réaction, qu'est-ce qu'on doit chercher auprès de notre Père pour pouvoir vivre notre vie selon ce que lui attend ? Donc, on va déjà commencer par les motivations de Dieu Créateur, parce qu'on va revenir déjà à la nature même de Dieu. Là, on ne va pas explorer tous les détails de la Trinité, mais Dieu se suffit à lui-même. Il a une relation d'amour entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, dans cette relation, il n'y a pas besoin de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur pour lui dire, pour le conseiller, pour qu'il se sente mieux. Il est stable dans une relation d'amour qui dure. Et donc, il n'a pas besoin des hommes, il n'a pas besoin de sa création. Donc, son œuvre, ça ne correspond pas à un besoin de sa part. Son œuvre, si Dieu est créateur, c'est parce qu'il l'a décidé. C'est une décision souveraine, c'est dans sa nature profonde, et c'est pas pour, comme nous les hommes, compenser quelque chose qu'on n'aurait pas. Alors, il y a de nombreux passages dans la Bible qui insistent très fortement pour dire que Dieu n'a pas eu besoin de conseiller pour créer tout cela. Alors, il y a un magnifique verset qui est... Le livre de Job, 38, à partir du verset 4, on pourrait le lire tout en entier. D'ailleurs, si vous avez le temps chez vous, parce que là, on va juste lire le début, mais « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases se sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse ? Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc On va pas tout le lire, mais il parle de la lumière, de la profondeur des abîmes, la neige, la grêle, enfin toute la création de Dieu dans toute sa splendeur. Et donc, c'est une révélation que Job a eue. C'est la nature extraordinairement complexe de la création. D'ailleurs, les scientifiques n'arrêtent pas de découvrir comme c'est extraordinaire, comme plus on étudie finalement la création de Dieu, et plus on a besoin d'un niveau de connaissance et de compréhension qui augmente au fur et à mesure de la possibilité de nos observations. Donc on est vraiment dans quelque chose de vertigineux. Là, la création de Dieu, elle est à des tiroirs, et des facettes multiples. Voilà donc, Dieu étant créateur, étant aussi l'auteur donc de cette création, il a autorité sur sa création. C'est pour ça que toute sa création est appelée à l'adorer. C'est un titre de gloire, hein, en tant que créateur, qui dépasse tout ce qu'on peut avoir, nous, comme titre sur cette terre. C'est vraiment le fait que Dieu est créé, ça le place au-dessus de tous et de tout. Et donc, nous, on peut avoir une intuition de ce que c'est que ce titre de Dieu créateur, mais c'est vraiment un titre de gloire qui dure pour l'éternité, et on a un rôle à jouer dans tout ça. On va déjà parler du rôle de Dieu, une fois qu'il a créé, comment il agit dans sa création, et comment il se positionne par rapport à sa création. Déjà, on a dans la Bible quelques aperçus de ce qui se passe. Il n'y a pas que ce qu'il y a sur la terre, notamment dans le ciel. Vous avez un trône, le trône de Dieu sur lequel il siège, et il y a le conseil de Dieu. Donc il s'entretient avec des conseillers, non pas que eux vont apporter des conseils, mais lui les met dans la... Il leur communique ses plans, et ils font partie de... C'est un grand honneur. Et on voit à un moment les quatre vieillards, avec aussi quatre êtres à l'aspect un petit peu étrange. C'est dans Apocalypse 4, 11, et les vieillards qui disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. » Vous voyez, là, il y a ce lien qu'il y a entre la création et la louange. Il y a ce lien entre la création et la louange, il est permanent dans les chants de louange. Ce matin, on l'a chanté, mais il y a un lien direct entre le fait que Dieu soit créateur, auteur, et qu'il mérite de recevoir la louange de toute sa création. On le voit dans le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Voilà, donc c'est l'action de Dieu dans toute sa création. Toute sa création est appelée, pas que les hommes, vous voyez, aussi l'ensemble des êtres. Et donc, comme il est auteur, il est souverain sur sa création, et en tant que créateur souverain, il a tous les droits sur sa création. Et qui dit droit aussi de nous juger. Il y aura un jugement. Et ce jugement-là, eh bien, il n'y a que Dieu qui en ait le pouvoir. Et comme il est le seul qualifié pour nous juger, eh bien, ne nous laissons pas juger par les hommes. Nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, d'ailleurs, ne jugeons pas le serviteur d'autrui. Hein. Ça nous est rappelé dans Romains 14, 4. Hein, ne juge pas les fils hein, de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et comme il est notre créateur et qu'il va, nous allons passer en jugement, il a aussi prévu qu'on puisse sortir la tête haute de ce jugement, parce que si on en reste à cette notion de jugement, eh bien, on est mal parti si on ne sait pas que Dieu a prévu le moyen non seulement de nous juger, mais de nous racheter. nous, on mériterait la condamnation d'un condamné à mort, condamné à l'enfer. Et pourtant, Dieu a prévu d'envoyer son propre Fils. Il a créé la croix. C'est aussi une création, ça a l'air infamant comme ça, mais ça fait partie de son plan. Dans sa création, hein, création, créativité, il a créé aussi le seul plan qui nous permette de pouvoir sortir vivants de ce jugement. Et il n'a pas hésité à envoyer son propre Fils. C'est vraiment un amour pour toute sa création, pour nous. Et c'était inimaginable un tel plan, parce que ni les hommes, ni même Satan n'auraient pu imaginer cette complexité, c'est le fait qu'il aille jusque-là pour sacrifier son propre Fils. Donc c'est une invention, un amour, quelque chose qui nous dépasse. C'est inimaginable d'avoir autant d'intelligence. Tout ça pour qui ? Pour des créatures comme nous ? C'est quelle valeur nous avons ? Quelle valeur nous avons vis-à-vis de Dieu ? C'est extraordinaire. En plus, c'est un plan de salut plein de finesse, de la manière dont il l'a annoncé, la manière dont il l'a apporté. Et nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. C'est la coopération. Là, on parlait de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour apporter le salut de l'humanité tout entière. Donc, si Dieu a créé, on parle dans la Genèse du septième jour, il ne s'est quand même pas arrêté au septième jour. Il a contemplé son œuvre, il a vu que c'était bon, mais il continue de créer. Dieu est Dieu, fondamentalement, il est créateur, il reste créateur. Et il nous a donné le jour du sabbat pour le sanctifier, mais il continue de créer, il est créatif dans tout ce qu'il fait. Là, on a une affiche, je vois, de la série The Chosen. Pour ceux qui connaissent cette série, il y a une scène qui est totalement inventée, mais qui est tout à fait dans l'esprit, comme ça, de Dieu créateur. On voit Jésus qui est une scène avec des enfants, hein, c'est pas dans la Bible tout ça, mais il construit des jouets en bois pour les enfants. Et il va leur donner, il y a beaucoup d'amour dans son regard. Et puis les enfants, wow, ils sont tellement contents d'avoir des jouets qu'ils n'auraient pas pu se payer. Et voilà, on sent dans cette scène l'amour que Jésus a pour ses enfants et comment il utilise les dons de charpentier qu'il a en tant qu'homme pour pouvoir bénir des enfants. Il les bénit pas seulement en parole, c'est très concret, il manifeste son amour, il utilise ses dons, il crée, il donne. Et ça, c'est la nature de notre Dieu. Donc nous aussi, hein, on a un bel exemple. Soyons créatifs de la manière qu'on voit comment Dieu est, comment Jésus est venu, nous a donné des exemples très concrets. Donc très concrètement, nous aussi, on peut utiliser on peut déjà regarder à Dieu pour voir comment il est créateur, comment il l'utilise. Alors lui, il l'est par nature, mais on va voir que ça, il nous le donne aussi, cette capacité à notre niveau. Puisque nous sommes appelés non seulement à glorifier Dieu, mais aussi à bénir les autres autour de nous. Donc, on va passer à notre rôle. Notre rôle, justement, étant en considérant la nature de Dieu, comment nous, à notre tour, nous héritons cette nature que Dieu nous a donnée comme cadeau, comme tout un tas de choses qu'il nous a données, puisque nous sommes ses enfants. Et c'est une révélation, hein, ça c'est la parole qui nous le dit, c'est aussi le Saint-Esprit, mais c'est pas quelque chose qui est accessible comme ça à la compréhension humaine. Quand on a cette révélation, quand on a cette prise de conscience, normalement chez toute personne, j'allais dire normalement constituée, quand on se rend compte de ce que Dieu a fait pour nous, ça nous pousse forcément à la louange. Ce que Dieu a fait, c'est tellement extraordinaire que ça nous donne envie de louer sous toutes ses formes. On va lire Ésaïe 55, verset 12. « Car vous sortirez dans la joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. » C'est vraiment, là encore, la louange est liée à la création. On voit toute la création qui loue Dieu. Et nous, à plus forte raison, on doit le faire. Aux pharisiens aussi, vous vous souvenez des pharisiens qui reprochaient à Jésus que ses disciples criaient un peu trop fort quand il entre dans Jérusalem, notamment. Dans Luc 19, Jésus leur répond « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Hein, » Donc nous, on ne va pas laisser les pierres crier. On a une bouche, on a des poumons, on va louer le Seigneur à pleine voix. C'est pas Moïse qui va me contredire là-dessus. Voilà, donc ne soyons pas timides dans la louange. En communauté, seul, on a plein de formes de louange. On peut parler, on peut chanter, on peut danser. Enfin, on parlait d'être créatif. C'est pas la créativité qui peut nous manquer. Vraiment de tout cœur. On va suivre le psaume 95, verset 6. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Il y a plein de pépites comme ça. On ne peut pas tous les citer, mais plein de petits versets qui parlent de ce lien entre notre Dieu, notre Père, notre Créateur et notre attitude en réponse à ce qu'il a fait pour nous. Et on parlait tout à l'heure de notre nature qui hérite celle de Dieu, et il y a cette transmission. Dieu nous a transmis son côté créateur. Donc on a tous la faculté de créer. Et ça, c'est un cadeau. Il ne s'est pas contenté, Dieu, de nous laisser dans l'ignorance, de faire de nous des êtres, des automates. Il nous a donné une volonté, il nous a donné tout ce qu'il faut pour... Il nous a créé à son image, donc il nous a donné tout ce qu'il faut pour être comme lui, à un niveau inférieur, mais avec la même nature. Et c'est ça qui donne un sens à notre vie. C'est le fait que, librement, on peut choisir de faire comme notre Père. Et donc, de rechercher sa volonté. Alors, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que Dieu nous a créé à son image. Il nous a même créé avec la capacité à transmettre la vie. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est unique dans toutes les créations. Et c'est un statut particulier à l'homme. Hein. Homme, c'est-à-dire homme et femme. D'ailleurs, Genèse nous précise, dans le chapitre 1, on va prendre par exemple le cas des anges. Les anges n'ont pas cette possibilité de créer des êtres. Ève, elle l'a compris très vite, hein, vu comment ça marchait. En Genèse 4, 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ça, c'est une prise de conscience extraordinaire. D'ailleurs, une naissance extraordinaire de voir la vie, comment elle se transmet, comment Dieu a choisi que ça se passe, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il y a plusieurs mystères qui sont... Voilà, on voit la vie, on voit une naissance, un bébé devant nous. Et bien malgré tout, c'est extraordinaire même. Les anges désirent plonger leur regard, nous dit la parole. C'est 1 Pierre 1,12. Parce que les anges, alors sauf erreur, ils n'ont pas non plus le Saint-Esprit qui vit en eux comme le Saint-Esprit vit dans nos corps. Bon, ça c'est... Il y en a qui sont plus spécialistes que moi de la Bible, mais enfin voilà, nous avons en tout cas des différences par rapport aux anges que eux n'ont pas, et notamment cette transmission de la vie, c'est un cadeau extraordinaire et noble, et c'est très précieux la vie. Une vie pour Dieu, c'est sacré. On le voit, il n'a pas laissé Abraham sacrifier son fils Isaac. Il l'a arrêté, il a dit que les sacrifices humains, c'est pas quelque chose qui l'agrée. On le voit aussi lors du meurtre d'Abel par Caïn. Donc très tôt, on voit que pour Dieu, une vie, c'est précieux au point d'en être sacré. On a une illustration hein, dans la Genèse, toujours, et beaucoup, dès le début, hein, Dieu pose les bases. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. On a encore le lien entre le fait qu'on est créé à son image et le fait que notre vie est précieuse. Il y a un lien de causalité parce que on a cette lignée qui remonte jusqu'à notre père. Nous ne sommes pas juste des amas de cellules, comme dirait Jean-Hugues Jéquier, pour ceux qui le connaissent. Et c'est aussi pour ça qu'on a un statut, donc je disais, différent des anges, mais aussi différent des animaux. Les animaux aussi sont sa création. Alors en ce moment, on entend beaucoup de lois qui veulent protéger les animaux, c'est très bien. Mais le danger, c'est de mettre au même niveau les animaux et l'homme. Et ça, c'est une tendance qu'on observe dans notre société, puisqu'on ne sait pas qui est notre père. Il y a des êtres vivants, ils bougent. Oh, l'homme, un animal, la vie d'un homme vaut celle d'un animal. C'est pas vrai. C'est pas ce que nous enseigne la parole. Et donc, prenons conscience que comment évolue la société autour de nous, c'est pas le plan de Dieu qui nous est rappelé dans la Bible. Et voilà, je parlais de la vie humaine et du côté sacré de la vie humaine. Mais parce que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres en qui Dieu vit, il met son esprit. Il y a un moment, dans le ventre de notre mère, il y a un moment, il y a l'esprit de Dieu qui vient et qui fait que on n'est plus juste des amas de cellules, on a la vie de Dieu en nous. Et donc ça, c'est quelque chose à préserver. Notre société aussi encourage beaucoup l'avortement, notamment. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas selon le plan de Dieu. C'est au regard de sa parole, c'est un non-sens. Ça peut pas entre Dieu qui crée la vie, qui cherche à ce qu'on préserve la vie, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on peut voir autour de nous. Une phrase dans le Talmud qui est très ancrée dans la culture juive. Qui est reprise notamment par le mémorial Yad Vashem, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ceux qui cherchent notamment les justes pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont sauvé des vies, ils ont sauvé des juifs, et voilà, c'est quelque chose qui est repris, tous les juifs sont très axés là-dessus, celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Donc c'est pour montrer à quel point une vie est précieuse pour Dieu. Donc, on a tous la capacité à sauver des vies. Hein. On parlait d'avortement, on peut sauver des bébés, on peut sauver des jeunes sur un mauvais chemin, on peut dire une parole à propos et la personne va être bénie, elle va regarder à Dieu. On a cette capacité-là aussi. Dieu nous l'a donnée. Il faut en prendre conscience, le travailler, travailler sa relation avec Dieu parce que on a des occasions plus nombreuses que ce qu'on croit dans la vie de tous les jours de sauver des vies. Alors, on l'avait déjà raconté à certains d'entre vous, mais avec Younok, il y a quelques années, enfin, ça remonte un petit peu, mais on avait été sur un forum franco-coréen, il y avait une jeune fille qui était enceinte, et voilà, c'était pas prévu, elle demandait conseil, savoir si elle devait garder le bébé ou pas. Et elle demandait son avis à des inconnus. Et donc on lui a fait un message en l'encourageant, en lui montrant combien c'est une vie précieuse et que dans quelques années, elle serait très contente d'avoir ce bébé. On ne lui a pas parlé de Dieu directement, mais voilà, on l'a encouragée en ce sens. Et à la fin, bon, chacun donnait son avis et tout, et à la fin, elle a conclu en disant « Merci pour vos différents avis qui m'a aidé à prendre une décision. » On ne sait pas quelle est cette décision, mais ça, après, c'est le Seigneur qui permet de semer, on ne sait pas, c'est pas, on n'a pas à comprendre tout ça, on est juste appelé à faire ce que le Seigneur nous demande. Voilà, ça fait partie des dons, hein, on peut citer, il y a des dons qui nous viendraient peut-être plus spontanément à l'esprit, mais ça, c'est important de prendre conscience qu'on a aussi cette possibilité-là. Alors, on peut rater des occasions, on peut rater des occasions de sauver des vies. Il ne faut pas se culpabiliser pour autant. La culpabilité, on l'a déjà vu, on la laisse à la croix, on la laisse clouer à la croix. Le plus important, c'est que quand on en est conscient, on peut rater la première occasion, hein, comme Pierre quand il a renié Jésus trois fois. eh bien, il y a pleurer amèrement, on peut pleurer sur notre propre condition, on peut pleurer sur le fait qu'on soit foncièrement décevant, on est forcément décevant par rapport à la perfection de Dieu, mais ce n'est pas grave. Pierre s'est repris parce que Jésus l'a encouragé. Et Jésus nous encourage, il nous dit, c'est pas grave, tu as raté, mais ça c'est du passé. Maintenant, construis avec moi, et moi je vais te donner des occasions, tu vas voir. Et quand on a ce cœur-là, de pouvoir chercher le Seigneur de tout notre cœur, les occasions, elles reviendront. Et Jésus ne s'arrête jamais sur un échec. Hein. La mort n'a pas eu la victoire. Jésus s'est levé du tombeau. Ça aussi, c'est la nature de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Et il ne s'arrête jamais à nos échecs. Il est beaucoup plus grand, plus puissant que nos échecs. Donc, tout ça, on le laisse, on le dépose au pied de la croix, parce que Jésus a vaincu. Il a vaincu notre propre faiblesse, en même temps que nos péchés. Il a vaincu la mort, il a vaincu tout ce qui s'oppose à lui et à sa parole. Donc, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit qui va nous mener dans des situations nouvelles jusqu'à ce que la victoire de Dieu soit manifestée. Parce que si Dieu nous a créés à son image, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait, ce n'est pas par désœuvrement, hein, donc. Il nous a créés parce qu'il avait une stratégie. Il est supérieurement intelligent, tout ce qu'il fait, il y a un but derrière, il y a un but parfait. On en a un indice dans Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous les pratiquions. Donc de toute éternité, tout ça c'est prévu. Dieu a tout prévu, il nous a créés pour qu'on rentre dans ses plans. Pour le glorifier. Donc, on a vu tout à l'heure hein, la différence entre les hommes et les animaux. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes appelés à glorifier notre Père. De Pierre 4 nous dit « Nous devenons participants de la nature divine ». On retrouve la même idée que tout à l'heure. Dans cette transmission, on devient, en entrant dans les œuvres de notre Créateur, on devient participant à cette nature divine. On n'est pas Dieu, mais on est ses fils et ses filles. Alors, souvent, quand on regarde autour de nous, on peut oublier le fait que nous sommes créés à son image, parce qu'on regarde à ce qui ne va pas. Hein. Moïse parlait tout à l'heure, on râle et tout. Mais voilà, Dieu a d'autres plans pour nous. Il veut qu'on ait une relation intime avec lui, qu'on soit complètement imprégné. Quand on est imprégné par sa parole, tout le reste disparaît. Toutes les difficultés, petit à petit, elles sont reléguées au second plan. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, ça veut dire qu'elles sont moins importantes que notre Dieu. On va lire dans Deutéronome 32. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Que mes instructions, se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Vous voyez, cette transmission, elle se fait aussi, donc on a parlé de la transmission de Dieu à homme, mais d'homme à homme. Il est rappelé que Notre Père, notre Créateur, nous demande aussi de transmettre à nos enfants, à nos pères, enfin P-A-I-R-S, aux gens qui nous entourent. Voilà, cette transmission, elle est très importante parce qu'elle glorifie Dieu. Et on voit cette lignée générationnelle interroge les vieillards. C'est pas pour rien. Tous ceux qui ont vécu leur vie peuvent dire ce qu'ils ont vécu avec Dieu, et à partir du moment où leur vie a changé, il y a une sagesse qui vient avec les années dans la relation avec Dieu. Donc ça commence par une prise de conscience, et ça nous est rappelé dans la parole. Voilà, c'est encore un résumé de notre Dieu créateur. Il y a aussi quelque chose que Dieu a créé, qu'on a parfois, nous, en tant que chrétiens, tendance à minimiser, c'est la loi. Alors, vous allez me dire, pourquoi je vais créer la loi? Pourquoi je vais parler de la loi? Eh bien, Dieu a créé la loi pour que nous soyons sauvés. Je vois André qui commence à baliser. Ouh là là, il va prêcher le salut par les œuvres. Pourquoi je lui ai demandé? Non? Non, vous allez voir. Ce que Paul dit de la loi, bon, c'est exact. Ça révèle le péché, c'est un pédagogue, il parle pas mal de la loi. Mais, à mon avis, Dieu a créé la loi pour quelque chose de tellement, finalement, évident que ça nous a échappé. On va lire Lévitique 18:5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Alors, il n'y a pas donné la loi pour que les hommes soient sauvés. Hein. Il est écrit, c'est un seul homme, hein. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Voilà, donc, parce que si on veut être sauvé, on a dit qu'il fallait mettre en pratique la loi. Est-ce que tout le monde pratique bien la loi? Tout le monde mange cachère ici? Personne n'a pris de boudin ou de porc récemment, ou une fois dans sa vie. Je ne sais pas, Alexis, tu as prévu un taureau pour le sacrifice? Non. André, tu as égorgé les holocaustes. Donc, voilà. On est sauvés, et pourtant, on n'a pas mis en œuvre tout ce que la loi nous demande. Si on pêche contre un seul commandement de la loi, on pêche contre toute la loi en entier. Donc on est tous d'accord pour dire que ça va être difficile d'être sauvé en respectant toute la loi. Alors pourquoi est-il écrit que l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle? Est-ce qu'on doit tous mourir dans nos péchés parce qu'on n'a pas réussi à pratiquer toute la loi? En fait, le seul homme qui a réussi à mettre en pratique toute la loi, qui n'a péché contre aucun des commandements, il les a tous respectés scrupuleusement lorsqu'il est mort. La mort n'a pas pu le retenir. Et il a vécu par l'obéissance et la mise en pratique de la loi afin que nous puissions, à notre tour, vivre par la foi en son nom. Et j'ai cité... Voilà. Marie-France avait vendu la mèche. Donc... peut prendre Deutéronome 18:18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ce prophète, c'est bien notre Seigneur Jésus. Dieu avait prévu les bonnes œuvres, il avait prévu de nous créer, il savait qu'on chuterait, il a tout prévu d'avance, mais il avait prévu aussi de nous envoyer son Fils, dont il est question aussi dès la Genèse. Donc on pourrait continuer longtemps sur le côté créateur de notre Dieu, les implications, ça peut faire l'objet de d'autres sessions, de parler de l'impact, le rapport entre la société et Dieu, comment on peut, nous en tant que chrétiens, apporter une voix différente de la voix du monde, de la voix de cette société qui ignore Dieu. Mais Jean nous prévient, le disciple de Jésus, que le monde est trop petit si on devait écrire dans des livres tout ce que Jésus a fait. Mais ce qu'on va retenir, c'est que Dieu nous pousse à être créatifs. Et pour le servir, comme lui, on va chercher comment. On va, pas par notre réflexion, par révélation, par se laisser imprégner de la parole, dans le secret de notre chambre, venir à Dieu, se mettre sur ses genoux, dire comment est-ce que je peux te servir, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour les autres. Comment, moi qui ne suis pas quelqu'un de bien, comment est-ce que je peux me laisser transformer par toi et aller voir les autres de ta part. Comment je peux te louer, comment je peux te servir, puisque tu m'as créé. On va parler d'Apocalypse 4, 11 toujours. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, merci parce que tu es plein d'amour. Merci parce que tu nous as créés. Seigneur, tu nous as remplis de ta parole, de ta présence par ton Saint-Esprit. Tu as créé toute chose, tu as créé le salut, tu as créé l'œuvre de la croix, tu as créé les petits bébés qu'on se réjouit tellement de voir, tu as créé la famille, les relations, tu as créé toute cette beauté qui nous environne. Et notre cœur veut se réjouir en toi. Seigneur, nous voulons te demander que ton amour soit répandu sur ton assemblée, sur ton peuple. Et ici, tous présents, nous en appelons à ce que ta nature créatrice, ta nature d'amour, ta nature qui ne demande qu'à être étudiée, qu'à être louée, eh bien, infuse complètement nos cœurs. Et recevons, nous te demandons de recevoir tous ici présents cet amour, cette grâce, cette joie. Donne-nous la joie du salut, la joie d'avoir été créé, la joie d'être tes enfants. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. À toi la gloire, la louange et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen.